Il est 10h passé de 31 minutes sur Polynésie Première. Le temps pour nous de retrouver votre émission Famille et Petits.
Polynésie Première.
Comment parler de la séparation des parents aux enfants? On en parle aujourd'hui avec notre invité, comme tous les lundis matin, avec Nathalie Colin-Fagotin, psychologue de la famille. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bon nombre d'enfants vivent aujourd'hui à la situation d'avoir leurs parents séparés. Ils alternent entre deux domiciles, deux familles, deux foyers. Est-ce pour autant une situation à banaliser? Bien que devenue fréquente, la séparation des parents n'en est pas moins douloureuse, voire perturbante pour l'enfant. Que faut-il faire pour minimiser les dégâts? Que faut-il dire à l'enfant? Ne pas dire? Comment le préparer à l'inévitable? Nathalie Colin-Fagotin, c'est autant de questions pour pouvoir y répondre aujourd'hui.
Oui, c'est des questions délicates que les parents se posent souvent avant la séparation, quand le sujet vient à être posé. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a des différences suivant l'âge. On sait par exemple que pendant la première année de la vie de l'enfant, pendant les premiers mois de sa vie, la séparation, si elle est vécue difficilement par l'enfant, elle le sera d'autant plus si la séparation est prolongée. Donc la séparation peut être vécue vraiment comme une déchirure profonde chez l'enfant. Un manque immense en lui peut être causé par cette séparation. L'absence de la mère en particulier, mais l'absence du père aussi peut être marquante à la mesure de l'attachement qu'il y aura entre ce père et ce bébé. Cela revient à dire qu'une séparation vécue avant la première année de l'enfant est toujours une séparation marquante pour lui, profondément et durablement. Une des raisons pour laquelle c'est aussi marquant, c'est que l'enfant pendant cette période n'a ni les moyens de comprendre, ni les moyens de surmonter seul un bouleversement de cette ampleur. Un peu plus grand, l'enfant va apprendre à se séparer. C'est ce qu'il va apprendre pendant les premières petites séparations à la garderie, à l'école. Il va développer des capacités, des compétences pour apprendre à se séparer de ses parents. Et c'est avec cette capacité que petit à petit, il va mieux vivre les événements de séparation, y compris la séparation de ses parents. Mais ça ne veut pas dire que s'il sait mieux gérer la séparation, qu'il n'en souffrira pas. Moins il y a des facteurs, en fait, qui peuvent aggraver la situation et la souffrance de l'enfant par rapport à la séparation des parents. Suivant les étapes, donc, de son développement, l'enfant va chercher plus la présence de son père, de sa mère, suivant aussi qu'il soit garçon ou fille. Et ce besoin, il est lié à des moments bien particuliers de la vie qu'il faut prendre en compte.
Alors, est-ce que justement, tu parlais à un instant de la première année de séparation, est-ce que la première année de séparation sera seulement difficile pour l'enfant et pas pour les parents?
Alors non, la séparation, elle est difficile aussi pour les
aussi
parents.
Aussi pour les parents, bien d'accord.
L'enfant, effectivement, souffre la séparation, même si elle est raisonnée, réfléchie, et que les parents estiment que c'est le choix le mieux pour eux à faire. Elle est de toute façon source de souffrance pour l'un, pour l'autre conjoint, des intensités différentes. Mais oui, d'ailleurs, c'est une des causes de la souffrance aussi de l'enfant, c'est de voir ses parents souffrir devant cette séparation, avant et pendant la séparation. D'ailleurs, les enfants souffrent beaucoup de ce stress qu'il peut y avoir entre les parents qui se disputent ou qui se chamaillent ou qui ne s'entendent pas au sujet d'un certain nombre de sujets. Et c'est ce qui va faire souffrir l'enfant.
Est-ce qu'il y a des différences liées à l'âge?
Oui, donc c'est ce que l'on vient de dire dans les étapes du développement de l'enfant. On a des temps plus propices, on va dire, pour que l'enfant comprenne. Il faut qu'il ait acquis une certaine maturité et puis une certaine capacité de raisonnement cognitif pour qu'il puisse appréhender, anticiper et donc mieux gérer, mieux rebondir après une séparation. Tout petit, l'enfant n'a pas les moyens donc de réfléchir à la séparation et de la comprendre. Et en plus, il a une notion du temps qui est tellement, on va dire, approximative, que pour lui, la séparation n'est pas quelque chose de définitif, comme par exemple la mort non plus ne l'est pas pour l'enfant tout jeune. Donc il ne peut pas appréhender la séparation de la même manière que va le faire un enfant de 3 ans, de 7 ans, et encore moins un adolescent. Donc le développement et l'âge de l'enfant sont vraiment à prendre en compte, parce qu'il ne va pas vivre la séparation de ses parents de la même manière.
De quoi souffre l'enfant exactement avant la séparation et après ?
Oui, alors avant la séparation, il y a bien sûr tout le stress qui est causé par les conflits, la mésentente entre les parents, et il en souffre comme ses parents en souffrent. Il peut y avoir de l'agressivité parfois dans les disputes, parfois même de la violence. L'autre chose dont souffre l'enfant, c'est la souffrance même de ses parents. Même s'il ne le verbalise pas, c'est-à-dire même s'il n'en parle pas à l'enfant, il va ressentir la souffrance d'un ou de ses deux parents, on va dire d'une façon complètement intuitive, et ça, c'est une douleur indicible pour l'enfant, mais donc qui va le marquer particulièrement. Autre souffrance aussi, pendant la séparation, c'est si l'enfant est pris à partie. On va lui demander, par exemple, de choisir un camp, ou alors d'être témoin des mauvais agissements d'un de ses parents. Il va, par exemple, devoir dire si son père ou sa mère effectivement a mal agi en faisant ci ou ça. Il va être très mal à l'aise, tiraillé entre ses deux parents, dans des situations où on va essayer de lui faire prendre parti. Et puis, l'enfant va peut-être aussi souffrir de ne plus avoir de modèle d'adulte capable de lui donner une façon de gérer des différends, des disputes, régler sereinement en fait ces conflits entre adultes. Et l'enfant, il a besoin de modèles plus que jamais pour grandir et pour apprendre à gérer lui-même ses propres conflits. Donc c'est une autre souffrance, on va dire, plus lancinante, mais qui peut s'installer aussi au fil du temps. Puis dernière chose, si les disputes entre les conjoints sont fréquentes ou violentes, évidemment, on ajoute en intensité à la souffrance de l'enfant qui va voir ses parents se faire du mal et incapable de s'aimer, de trouver une entente. Donc la souffrance qui va être causée chez l'un ou l'autre parent fait souffrir directement aussi l'enfant.
Faut-il, ou bien l'enfant peut-il être plus ou moins perturbé en fonction des motifs ayant causé la séparation, Nathalie ?
Alors non, le motif en tant que tel ne cause pas de perturbation particulière chez l'enfant. Par contre, même si ce motif n'a pas de conséquences directes, l'enfant va quand même percevoir cette souffrance de la séparation, et notamment dans la manière dont ça va lui être annoncé. Comment on va lui expliquer ? Est-ce qu'on va le faire avec de la tristesse, de la colère ? Est-ce que les parents vont le faire ensemble, ou ils vont lui expliquer différemment ? Tout ça va compter dans, on va dire, peut être un facteur, peuvent être des facteurs qui vont influencer, perturber parfois l'enfant concernant la séparation. Par exemple, si les parents annoncent qu'il n'y a plus d'amour entre eux, l'enfant peut craindre pour lui-même. C'est-à-dire, si papa, maman ne s'aiment plus, qu'il n'y a plus d'amour entre eux, peut-être qu'un jour, moi-même, ils ne vont plus m'aimer, ou ma mère, mon père ne va plus m'aimer. Donc ça peut être un exemple de perturbation pour l'enfant. Autre chose, si l'un des parents, par exemple, va laisser transparaître son malheur. On sait que pour les parents, et ça peut être tout à fait sincère de la part des parents qui expriment leur souffrance par rapport à la séparation, mais parfois ils vont le faire en donnant la cause de leur souffrance à, on va dire, le rendant coupable en fait le conjoint, l'autre parent. Dans ce cas-là, l'enfant aura tendance du coup à prendre le parti du parent qui souffre pour à contrario, au détriment de l'autre parent qui fait souffrir. Et c'est très perturbant pour lui, parce qu'il a quelque part là alors qu'il a un sentiment de loyauté vis-à-vis de ses deux parents, il se sent tiraillé entre l'amour qu'il a pour sa mère et son père, et sa tendance à vouloir protéger celui qui va être plus malheureux. Donc il va avoir tendance à prendre parti, mais ça n'est jamais une situation confortable pour l'enfant. D'ailleurs, ce conflit de loyauté qu'il va vivre va souvent durer. Il va souvent avoir du mal à s'en dépêtrer. Il faudra en général une intervention extérieure pour aider l'enfant à sortir de ce conflit de loyauté, notamment si les parents ne l'empêchent pas, ou pire, même si on alimente en fait ce conflit de loyauté en disant: tu vois ton père, tu vois ta mère comme il me fait souffrir. L'enfant va souffrir énormément de cette mésentente. Et enfin, la culpabilité. L'enfant va souvent souffrir de culpabilité par rapport à la séparation des parents. Alors c'est souvent incompréhensible de la part des parents qui se disent « mais mon enfant n'a pas à se rendre coupable de notre séparation qui concerne que notre couple ». Mais la vision que l'enfant va avoir, la compréhension qu'il a de la situation va l'amener à faire des conclusions où il peut avoir une responsabilité. Il va peut-être penser que si les disputes tournent autour de lui, ou de l'enfant, ou des enfants en général, peut-être qu'il se sentira responsable et coupable de la séparation, en pensant que les sujets de dispute tournant autour de lui, s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de dispute. Et même si la pensée peut paraître simpliste, chez les enfants, notamment en bas âge, les raisonnements peuvent être simplifiés, parfois à la grande surprise des parents, mais du coup causer une source de perturbation qu'ils ne vont pas forcément exprimer, qui va réellement les perturber.
Alors la question d'un auditeur que je viens tout juste de recevoir, Nathalie, et puis on va poser la question qui vient juste après. Pour éviter cette culpabilité de cet enfant, faut-il justement tout dire ?
Alors, il faut dire quelque chose, tout dire. On verra que non, pas vraiment. Mais en tout cas, il faut dire quelque chose à l'enfant, parce que l'enfant, de toute façon, va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est important de dire, ne rien dire, voilà les effets que ça peut avoir. Si l'enfant ne sait pas ce qui se passe et qu'il sent justement que quelque chose ne va pas, il va peut-être intégrer le fait que la séparation, le sujet qui pose problème, par exemple dans la famille ou dans le couple, est suffisamment inquiétant, effroyable, terrifiant, indicible, et il va en faire une situation encore plus dramatique qu'elle ne pourrait l'être. Il va se sentir menacé, sans savoir ce qu'il menace exactement. Il va juste appréhender l'idée que c'est quelque chose de très flou, de très inquiétant. Mais en plus, il ne va pas se sentir autorisé à en parler parce que les adultes autour de lui ne disent rien. Donc lui-même ne va rien dire, en tout cas pas devant ses parents. Ce qui va être un peu gênant parce que l'enfant va exprimer de toute façon sa souffrance. S'il n'a pas les mots pour le dire, ça s'exprimera de manière, on va dire, indirecte, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Il va vivre de l'intérieur cette souffrance liée à la séparation, et ces questions vont rester sans réponse, puisqu'il n'osera pas les poser. Alors, si, au contraire, la séparation est parlée avec l'enfant, expliquée, elle va quand même faire souffrir l'enfant. On peut pas éviter cette souffrance complètement, mais en même temps, l'enfant va apprendre que ça fait partie de la vie, qu'il y a des mots pour ça, et le fait de pouvoir le verbaliser, c'est déjà une aide pour lui, pour aider à surmonter cette difficulté, cette épreuve pour lui. Néanmoins, comme je disais, il ne faut pas tout dire. Il y a des motifs, des circonstances, par exemple, qui vont amener la séparation des parents, qui peuvent concerner des événements qui se sont passés, des reproches qu'on a à faire au conjoint, ou à la douleur, par exemple, qu'on va ressentir à penser à cette séparation. On n'a pas à dire à l'enfant les raisons qui, à première vue, ont causé la séparation, d'autant que quand on est dans le feu de cette séparation, on peut avoir une vision sans beaucoup de recul. On va par exemple penser que la cause, c'est le déclencheur finalement qui a précipité la séparation. Une infidélité par exemple, ou l'alcoolisme du conjoint, ou un geste de trop qu'on pense être la cause de la séparation. Or, bien souvent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Des parents qui arrivent à se séparer, enfin en tout cas un couple, puisqu'il ne s'agit pas en fait des parents, on verra, c'est un couple qui se sépare. Le couple qui se sépare va à une histoire qui échappe à l'enfant. En tout cas, il la connaît, mais à travers ses yeux à lui. Donc l'histoire de ce couple est plus complexe, dure depuis beaucoup plus de temps, et la séparation, elle est souvent, la plupart du temps, liée à des facteurs beaucoup plus nombreux que la simple cause qu'on va mettre en avant. Donc, mieux vaut ne pas simplifier à l'excès, on va dire, la cause, en donnant des coupables et des fautifs dans la séparation, parce que, d'une part, ça ne sera pas la réalité, et d'autre part, on risque de donner des explications erronées dans la tête de l'enfant, qui, du coup, va se faire une idée de la réalité qui est fausse. La séparation, c'est souvent la réponse à de multiples causes et circonstances qui sont trop complexes pour être appréhendées par l'enfant. Donc, ne pas parler de tout ça.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut lui dire concrètement pour le rassurer, par exemple ?
Alors, ce qu'il faut lui dire, voilà plusieurs choses hein, qu'on pourrait résumer en quelques points. Par exemple, ce qu'il faut dire d'abord à l'enfant, expliquer, c'est quelle place lui, il a dans cette séparation, quelle place il aura après la séparation, notamment dire que la décision de la séparation n'est en rien en lien avec lui, qu'il n'en est pas responsable. Comme je disais par rapport à la culpabilité tout à l'heure, on peut lui dire qu'il n'en est pas coupable, même s'il ne l'a pas exprimé ou demandé. De toute façon, ça peut le rassurer de savoir ça. Deuxième chose, lui dire qu'il peut être sûr de garder pour toujours l'amour de ses parents. Encore une fois, l'amour qui, la relation d'amour qui est cassée dans la séparation, c'est la relation d'amour entre deux conjoints. Donc c'est la relation de couple. Et l'amour filial est différent de l'amour conjugal. Donc l'enfant, il ne saisit pas forcément la nuance. Pour lui, c'est un peu un tout. Donc c'est lui expliquer que l'amour filial dure toute la vie et que c'est pour ça que même séparés, ses parents continueront à l'aimer. Troisième chose, l'enfant va se poser la question sur les circonstances de sa naissance. Est-ce qu'il a été finalement désiré? Est-ce qu'il est encore aujourd'hui désiré dans cette vie où ses parents semblent ne plus vouloir être ensemble et former une famille avec lui, dont il se sent participant, évidemment, appartenir. Donc il va se poser la question de savoir est-ce que finalement j'ai été un enfant désiré. Et c'est important que les parents puissent dire à l'enfant, tu as été, malgré les circonstances, malgré les événements aujourd'hui, un enfant désiré, un fruit attendu du couple, et qu'on ne regrette pas ta naissance. Tu as été conçu dans l'amour de deux êtres, hein, ton père et ta mère, et ça ne changera pas, quel que soit l'historique qu'il peut y avoir après. Dire aussi que la séparation effectivement, il y a un problème ou plusieurs problèmes, mais que ces problèmes sont l'affaire du couple. Ils sont l'affaire du couple et non pas de l'enfant. Donc, il n'a pas à s'immiscer dans cette compréhension et à s'immiscer dans le problème lié à la séparation, d'une, et qu'en plus, après la séparation, ce couple reste un couple parental. Il ne sera plus un couple conjugal, mais il sera un couple parental. Ils resteront unis, en tout cas liés par la responsabilité commune qu'ils ont vis-à-vis de cet enfant. On peut dire une autre chose aussi, c'est que l'enfant, pour être sécurisé, il a besoin de savoir où il est, où il va, comment ça va se passer après. Donc une chose qui peut le rassurer, c'est de lui expliquer que par rapport aux conséquences que la séparation va avoir pour lui, il va y avoir des changements, évidemment, dans sa vie. Il va se demander où est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va changer d'école, est-ce qu'il va devoir se séparer de ses amis, etc. Donc cet enfant a besoin, le plus tôt possible, dès qu'on le sait, même si on ne le sait pas, de dire qu'on s'en préoccupe et qu'on l'informera, de comment ça va se passer après la séparation, concrètement, dans son quotidien, à lui, avec les modalités de garde. Quand est-ce qu'il va voir son père, sa mère? Est-ce qu'il va ou pas changer d'école? Tout ça est bien plus facile une fois qu'il a les éléments sur lesquels se baser. Ça va être plus facile de se repérer que s'il a à gérer le mensonge ou le silence de ses parents. Donc c'est vrai que peu de parents arrivent à gérer seuls avec calme et perspicacité leur séparation parce que justement ils sont pris par d'autres préoccupations personnelles, on peut le comprendre. Donc ne pas hésiter dans ces cas-là par rapport à ce qu'il faut dire ou pas dire, suivant aussi l'âge de l'enfant, à se faire aider parce que parfois on est tellement dans ses émotions qu'on a du mal à s'en décoller pour mettre des mots. Donc un professionnel extérieur qui va savoir comment formuler, quoi dire à l'enfant, essayer de mettre du recul, séparer les émotions de leur expression, aider donc à mettre des mots appropriés sur ce qui se passe. Bon, évidemment, le travail, le psychologue peut aider à faire ce travail-là.
Nathalie Collin-Fagotin, notre psychologue de la famille, vocation 7123-71-23, le buzz SMS de Polynésie Première. Nous avons une autre question, Nathalie, je vais la reformuler. Alors, c'est un papa qui est séparé justement de sa femme depuis 3 mois maintenant, son fils a 2 ans. Donc, il demande s'il est normal que son fils ne demande pas, ne réclame pas sa maman. Est-ce qu'il doit s'y forcer justement à ce que son fils doit rencontrer sa maman? Est-ce que c'est important pour l'enfant déjà?
Alors le forcer, non. parce qu'il y a sûrement des raisons au fait qu'il n'exprime pas ce besoin de voir sa maman. Mais le fait qu'il ne l'exprime pas ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin. Mmh. Il peut y avoir plusieurs raisons au fait qu'il n'exprime pas son besoin de voir sa maman. Il peut penser que c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder parce que ça risque de réveiller des conflits. Donc, il ne va pas, encore une fois, se sentir autorisé à parler du sujet de la maman dans son nouveau domicile, par exemple. Hein. Là, je ne connais pas la situation, donc ça n'est qu'une hypothèse qu'il faut voudrait confirmer, mais si il ne demande pas à voir sa maman, est-ce que la maman demande à voir son fils? C'est important à 2 ans qu'il puisse encore voir ses deux parents de la manière la plus sereine possible, c'est-à-dire d'une façon qui soit discutée, décidée avec les deux parents sur les modalités pour qu'il ne se sente pas tiraillé justement et qui se sentent tout à fait autorisés à dire oui je suis chez papa et je t'aime papa mais j'aime aussi maman et j'ai besoin aussi de voir maman.
Une autre question d'un auditeur, une auditrice: que se passe-t-il si un des parents ne veut plus de contact avec son enfant? C'est une situation un peu particulière.
Oui, alors difficile de répondre à cette question précisément si on ne sait pas ni les contextes, ni le contexte, ni l'âge de l'enfant, puisque si l'enfant a un certain âge, hein, il est autorisé par la réglementation, par les textes de loi, à formuler son souhait ou pas de voir un parent ou non. Donc le parent aussi, dans certaines circonstances, peut solliciter de voir l'enfant ou pas, mais tout dépend quel cadre juridique en fait pose la nouvelle organisation familiale. Si le juge aux affaires familiales a déterminé un cadre avec des modalités de garde bien particulières qui sont inscrites et qui ont été dont les parents ont été informés, c'est ce cadre qui fera référence ensuite par rapport à l'organisation familiale et au fait qu'un parent voit ou pas son enfant. Cette organisation, elle peut évoluer, évidemment. Maintenant, la question sera aussi de savoir quel est le motif pour que ce parent ne veuille plus voir son enfant. C'est d'ailleurs plutôt rare comme situation. C'est plutôt l'inverse qui se passe, ou plutôt le conjoint, par exemple, qui ne souhaite pas que l'enfant aille chez l'autre parent. Donc, ces situations peuvent être assez courantes par rapport aux séparations parentales. C'est beaucoup plus rare de trouver des parents qui ne veulent pas voir leur enfant. En tout cas, là, il y aurait certainement à savoir pourquoi, enfin, quel est le motif à ce point important qui amène à prendre une décision aussi radicale du côté du parent.
Le 7123-71-23, le buzz SMS de Polynésie Première pour poser toutes vos questions avec notre psychologue de la famille, Nathalie Collin-Fagotin. Nathalie, pour l'actu Family Psy, donc en fin de semaine, ce sera bien sûr la sortie, enfin, du site internet.
Oui, voilà, donc très prochainement le site internet qui relayera donc toutes les informations et puis avec du coup une plateforme de services en ligne pour les parents qui souhaitent justement bénéficier de services d'accompagnement, de conseils en ligne, et puis ce réseau de parents qui va petit à petit se mettre en place via la plateforme du site Family Psy, donc sur l'adresse familypsy.com. donc pour l'instant on ne peut pas y aller, mais très prochainement dans fin de semaine l'accès sera rendu public.
Voilà, ça va se faire très rapidement. Et puis, tu tiens également des ateliers, au moins une ou deux fois par mois.
Oui, alors d'ailleurs, le 24 octobre, le samedi 24 octobre, l'atelier parents, donc, qui se tiendra de 9h à 11h le samedi 24, s'organisera, il y a un thème à chaque atelier parents. Donc là, le thème de ce jour, ce sera comment trouver et tenir sa place de beaux-parents dans une famille recomposée. On a parlé aujourd'hui de la séparation des parents, donc souvent la suite quand la séparation est définitive, c'est une famille qui se reconstitue. C'était pas toujours facile de trouver sa place, de recréer des repères stables pour l'enfant et une vie relationnelle satisfaisante pour tout le monde. Donc ce sera l'objet de l'atelier parents du 24 octobre.
Family Psy, c'est la page Facebook également de Nathalie Collin-Fagotin pour toute information possible, pour toutes les questions également, et puis pour revoir justement ces émissions qui sont radio-filmées. Voilà. Poésie Première. Nathalie Collin-Fagotin, merci beaucoup.
Tu as tout dit. Oui, merci et plaisir de se voir la semaine prochaine.
Est-ce qu'on peut rappeler un numéro de téléphone quand même?
Oui, alors pour toutes les informations sur les ateliers, le site ou sur les services, ou des questions supplémentaires sur les services justement d'accompagnement, 87 718 908, 87 718 908.
Merci, Nathalie Coilin-Fagotin. Je rappelle que vous êtes psychologue de la famille. 10h55 sur Polynésie 1ère.